le speed dating de l'immobilier. Organisé par Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, vendredi 3 septembre 2021, en direct sur Radio Immo. Sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour les amis, vous avez notre ami Nicolas Tarade qui était sur le plateau, je suis ravi d'être avec vous, merci aussi pour tous vos commentaires, ça nous encourage hein, quand même, c'est plutôt sympa. On a de la chance, on a vraiment du bol ce matin, on a un temps hyper clément et symbolique. Ça fait un an et demi effectivement qu'on ne se voit plus, alors il n'est pas temps encore de se faire des câlins, mais ça viendra. On se retrouve, carton plein, 400 inscrits ici au 8e speed dating d'Arkéa Banque. Alors quelqu'un que je connais, que j'ai eu le plaisir d'avoir sur le plateau, et je m'en rappelle très bien, puisqu'elle a son franc-parler voilà, dans le métier. En tout cas, on l'apprécie. Aude Debray est avec nous.
Bonjour.
Comment ça va, Aude ?
Très bien, merci. Ravi d'être là.
Ah, ça me fait super plaisir de vous voir. Vous êtes la directrice générale de l'établissement public d'aménagement de Sénart. Voilà, un gros établissement public d'aménagement.
Un établissement d'aménagement historique.
Oui, et un des plus importants en France. Alors, bien évidemment, je ne peux pas résister à cette question. On a parlé beaucoup d'immobilier durable, de responsabilité éco aussi environnementale. Beaucoup de sujets à l'aune des défis climatiques qui nous attendent, on l'a bien vu, hein, clairement. Si on fait un petit point d'horizon avec la reprise des activités, Aude, sereine, optimiste ?
Pas totalement sereine. Je trouve que le climat est difficile et que les élus sont inquiets. Et donc, comme évidemment, nous travaillons en partenariat très étroit avec les élus, on le dit beaucoup, je sens moins cette envie de construire et de développer qui existait historiquement sur le territoire, qui est celui de l'opération d'intérêt national que je dirige. Donc, beaucoup de satisfaction parce que je pense que la qualité des réalisations qui sont faites sur le territoire et globalement la qualité de vie sur le territoire de Sénart est plutôt plébiscitée dans une période comme celle qu'on a connue avec le Covid et le confinement. Certains sujets auxquels je suis extrêmement attachée, comme par exemple la qualité des espaces extérieurs dans les logements, ont prouvé évidemment leur utilité. Donc ça, c'est une satisfaction. Sur le plan du développement économique, puisque nous avons un très gros rôle qui est de département où nous voulons faire du développement équilibré, c'est de faire des logements et de l'accueil d'entreprises, les contacts reprennent effectivement l'activité, alors pas en tertiaire hein, clairement, mais nous avons beaucoup de contacts, donc on sent que l'activité reprend. Il y a des projets, les promoteurs évidemment sont toujours très désireux de venir sur le territoire, mais on sent des interrogations chez les élus.
Alors des interrogations, dont certaines interrogations qu'on peut comprendre aussi, mais malgré tout, si on fait le point des chiffres nationaux, on a des régions par exemple avec moins 57% des permis de construire qui sont carrément arrêtés, vraiment à l'arrêt, et on a un stock à venir de logements neufs avec des problématique où il faudra bien un jour loger les Français, qui est dramatiquement bas. Est-ce que le fait que les élus locaux aujourd'hui soient frileux est lié à un environnement législatif, à une politique globale, où on voit bien que la politique du logement ou de l'immobilier globalement, c'est pas franchement pas la préoccupation de l'exécutif aujourd'hui ?
Je pense que les élus sont hésitants, d'une part parce que leurs finances locales, l'évolution de la taxe d'habitation, par exemple, crée de l'incertitude sur la visibilité financière. Ça, c'est incontestable. Après ça, je suis sur un territoire qui se développe continuellement depuis près de 50 ans. La ville nouvelle a été créée en 73. On se rapproche des 50 ans. Je pense qu'on a des nouvelles générations d'élus. Après, des élus qui étaient profondément bâtisseurs et développeurs, on a des élus qui sont plus gestionnaires. Donc évidemment, très également à l'écoute des préoccupations de leurs habitants qui n'ont pas forcément envie que le territoire se développe. Vous savez que c'est souvent « not in my backyard » et donc les dernières arrivées sont très contents d'être arrivées mais n'ont pas du tout envie que d'autres les suivent. et on sent que les élus sont de plus en plus réceptifs à cette préoccupation, même s'ils savent qu'ils sont dans une ancienne ville nouvelle qui demeure une opération d'intérêt national. Et puis ils ont des préoccupations globales de saturation d'infrastructures, de sécurité, et donc ils se disent, ils interpellent beaucoup l'État en disant, puisqu'on est en opération d'intérêt national, que proposez-vous ?
Mais oui, bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est effectivement... Bon voilà, après ça, il faut démêler...
Est-ce qu'ils vous confient leurs inquiétudes sur la baisse des dotations, sur les ressources, effectivement ? Parce qu'on voit bien, hein, vous l'avez dit, hein, ce qui a cristallisé beaucoup la défiance des maires aujourd'hui, c'est effectivement la taxe d'habitation. Hein. On est très clair, nous, on fait le Tour de France régulièrement, on rencontre les maires, il y a un vrai sujet. On a beaucoup parlé d'un adage, bon, une idée un peu éculée d'ailleurs, on peut le dire, maire bâtisseur, maire battu, etc. Tout ça c'est un petit peu dépassé, mais néanmoins, il y a un sujet sur l'habitat. Et le Covid a mis en relief à la fois une fragilité institutionnelle liée peut-être à une gestion de la crise qui est venue, dont on ne savait pas véritablement quels étaient les impacts, et en même temps, on voit bien, par exemple, on a quelques chiffres, il y a 5 millions de Français aujourd'hui qui sont en attente d'un logement décent, 2,5 millions inscrits sur des listes pour du logement social, il y a un vrai sujet. Comment on fait pour trouver une solution quand on sait aujourd'hui qu'on est dans un schéma de désartificialisation des sols, par exemple, qu'effectivement on veut réinviter la nature en ville, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Vous y êtes d'ailleurs très attentif sur les espaces, sur les communs. Comment on fait pour trouver la martingale politique ou la bonne stratégie qui fait que, est-ce que par exemple les villes moyennes, c'est on applique, on avait une revanche des villes moyennes, effectivement, qui ont vu leur démographie un peu s'inverser positivement. Est-ce que c'est tout ça, c'est des signes qui nous permet de dire qu'il faut retrouver un équilibrage territorial.
Ce que l'on sent, nous, sur un territoire de grande couronne, c'est une appétence extrêmement forte. Hein, les gens cherchent à quitter probablement la zone la plus dense.
On est d'accord que ce mouvement,
demandeurs, ouais. Ils sont demandeurs d'espace. Ouais. Et donc c'est un vrai paradoxe, c'est une extrême difficulté pour l'aménageur que je suis, à la fois en tant qu'outil d'État, et on a des injonctions très fortes de faire plus de densité, plus de sobriété foncière, et en même temps les aspirations des gens ne sont pas celles-là.
Ouais, c'est schizophrénant.
Et évidemment, les élus sont davantage à l'écoute des habitants.
C'est leurs électeurs en même temps.
Et donc on a un vrai paradoxe, si vous voulez. Le zéro artificialisation nette conduirait à ne plus artificialiser, alors c'est en 2050, mais malgré tout, à prendre en compte ce mouvement. En revanche, les élus ne sont pas favorables à densifier. Donc, c'est-à-dire que paradoxalement, soit on arrête tout, parce qu'on n'artificialise plus,
mais il faudra bien passer par la densification.
Eh bien, moi,
la verticalité, peut-être.
Je suis très mesurée sur ce sujet, parce que, si vous voulez, moi, j'ai un credo, une conviction extrêmement forte, c'est que ces problématiques-là doivent être réfléchies en contextualisant au maximum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner in abstracto.
Ah oui, bien sûr, mais vous voulez dire la réalité de chaque territoire pour chaque territoire.
Absolument.
Bien sûr,
moi, je suis sur un territoire de grande couronne, si vous voulez, sur lequel il y a un parc absolument considérable de maisons individuelles. Aujourd'hui, la demande...
C'est même quasiment les deux tiers.
Historiquement, ouais, oui. Aujourd'hui, ça s'explique très bien, hein, si vous voulez. Pendant plus de 20 ans, la ville nouvelle s'est développée sans transport en commun. Donc, parce que le RER est arrivé en 1995 par rapport. Donc, si vous voulez, on a travaillé sur de la maison individuelle. Et donc, aujourd'hui, il y a toujours une appétence très forte des gens. Et dès que vous faites du collectif et que vous cherchez à diversifier les produits et à faire des logements un petit peu grands en logement collectif, immédiatement, vous atteignez les prix de la maison individuelle. Donc, les gens préfèrent prendre de la maison individuelle. Et donc, moi, j'ai un vrai paradoxe, si vous voulez, et que j'ai un peu parfois dit de façon provocante, vous parliez de mon franc-parler au ministre, en disant, écoutez, moi, je suis sur un territoire où densification égale paupérisation. Et ça, il faut y être vigilant, si vous voulez. Nous, on installe des entreprises. Bon, on crée 1000 emplois par an, à peu près. Les entreprises ont du mal à recruter des cadres. Je suis dans une agglomération, Grand Paris Sud, qui manque terriblement de cadres. Ça a été identifié dans le constat du PLH. Il y a à peu près 15% de cadres. Ceux qui sont présents...
Le territoire n'est pas attractif pour les cadres ?
Historiquement, vous savez, l'agglomération, elle va sur l'autre rive de la Seine, Évry, Grigny, Corbeil. Bon. Mais il y a relativement peu de cadres. Quand vous prenez une entreprise comme Safran, qui est présente sur le territoire, les salariés de Safran, ils habitent à Paris ou à Fontainebleau. voyez ? Bon. Et donc, moi, je considère qu'on a une mission extrêmement forte qui est de fixer des cadres sur ce territoire. Et alors, si on veut fixer des cadres sur le territoire, on ne les fixera pas dans du collectif. C'est pas vrai.
Vous pensez ?
Ah, j'en suis. Je pense pas. J'en ai la certitude.
Et même un collectif de grande qualité.
Eh bien non, parce que vous aurez. Non, parce que vous aurez la concurrence de la maison individuelle.
Ben oui, bien sûr.
Et donc, il faut donc on a travaillé sur des formes urbaines innovantes, sur comment réinventer l'habitat individuel durable en périurbain, vous voyez. Et donc, il faut chercher. Il faut éviter d'opposer l'individuel et le collectif.
Bien sûr. Il peut y avoir un mix entre les deux.
Il faut bien sûr. Alors très souvent, par exemple, nous on fait travailler les promoteurs dans nos consultations. On met les deux. Et on leur demande de répondre avec une part de collectif, par exemple 2/3 de collectif, 1/3 d'individuel, en essayant de faire en sorte que les produits se parlent, que du coup la modénature des bâtiments soit conçue pour que ce soit des quartiers qui fonctionnent dans cette mixité. Donc voilà, si vous voulez, cette densité, elle est voulue, elle est extrêmement crainte par les élus. On a des raisonnements, je prends un autre exemple, on a des raisonnements d'acteurs qui sont des acteurs du périurbain. Je pense à des entreprises de commerce, des distributeurs qui sont habitués à venir faire leur bâtiment qui est posé sur un foncier. Bon. Partout en ville, vous construisez toujours au-dessus, sur les bâtiments commerciaux. Eh bien, moi, je suis sur un territoire où il y a une vraie réticence. Les distributeurs n'ont pas envie qu'on construise au-dessus parce que c'est des contraintes pour eux, c'est plus compliqué. Et les élus non plus. Parce qu'ils se disent c'est compliqué, les flux, il faut croiser la livraison, les habitants, etc. Alors que ça se fait partout en France.
Bien sûr.
Mais ça n'est pas encore mûr en grande couronne. Donc si vous voulez, on a un travail d'acculturation à la densification, on ne peut pas la déclarer.
Mais on y viendra de toute façon.
On y viendra.
Bien, évidemment.
On y viendra, mais je ne sais pas combien de temps on va prendre, nous cette année... On fait travailler des étudiants du master de Sciences Po, du cycle d'urbanisme, sur comment gérer cette densification, comment la rendre acceptable pour les élus, comment sur un territoire qui est à renouveler et à transformer. Vous voyez, c'est des process, à mon avis, qui vont nécessiter de la pédagogie, qui va être quand même longue. Il va peut-être falloir plusieurs générations d'élus pour faire évoluer les mentalités.
Dernière question. Le défi climatique, c'est un enjeu majeur, hein, on est d'accord ? Où on est tous interdépendants, il s'agit de notre planète au sens propre du terme. Je paraphraserai pas ce qu'a dit le président Macron avec « il n'y a pas de planète B », mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un défi. La place de l'aménageur que vous êtes, comment vous l'abordez très concrètement, on va dire in abstracto, dans votre territoire ?
C'est fondamental, c'est absolument fondamental, parce que l'aménageur, déjà, il doit mettre en œuvre le développement durable dans les aménagements qu'il réalise lui-même, et par ailleurs, il est prescripteur dans les consultations qu'il lance vis-à-vis des opérateurs, que ce soit des opérateurs d'activité économique ou des promoteurs, des bailleurs sociaux. Donc une double responsabilité. En plus, en tant qu'opérateur de l'État, on a des exigences très fortes de l'État qui nous fixent des objectifs de développement durable. Alors très concrètement, réemploi des terres excavées, recyclage des déchets, développement d'espaces favorables à la biodiversité, utilisation de matériaux biosourcés, prise en compte du cycle de vie des bâtiments, etc. Donc on est complètement dans ces sujets.
Aligné sur le...
Voilà, alors simplement, donc nous, on est sur un territoire où on a un ADN très vert, donc le rôle vert de l'aménageur, on le porte depuis toujours, que ce soit dans les aménagements paysagers, dans le traitement de l'hydraulique, dans les plantations en amont de nos projets, dans l'encouragement à des mobilités douces. Voilà, ça, on l'a toujours porté, c'est notre marque de fabrique. Donc évidemment, on doit continuer avec davantage de sobriété foncière. Donc ça, c'est un enjeu pas facile. Mais compte tenu de la contextualisation, ces sujets de matériaux biosourcés, par exemple, d'utilisation du bois, etc., aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, ça génère des surcoûts. Nous, on est sur un territoire qui est essentiellement un territoire de primo-accédant.
Ah oui, et l'impact
où les prix, où les prix sont limités. Ah oui. Moi, j'ai relativement peu d'élasticité sur les prix. Et donc, je suis en train de faire travailler des spécialistes de l'environnement et des économistes de l'aménagement et de la construction pour savoir quels sont les critères qui ont le plus grand effet de levier du point de vue du développement durable. On ne pourra pas tout faire, hein. Même vis-à-vis des objectifs de l'État, je me sens capable de leur dire, écoutez, non, je ne vais pas respecter tous vos objectifs, en revanche, je vais mettre le paquet sur celui-ci ou celui-là, parce que c'est celui qui a l'effet de levier le plus important. Et donc, on est en train de travailler sur cette question-là, parce que le développement durable, c'est aussi quelque chose qui doit fonctionner avec un modèle économique qui tourne, et sur les territoires périmétropolitains, la contrainte est plus forte qu'ailleurs.
C'est très clair, et c'est une belle punchline pour conclure cette interview. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'établissement public d'aménagement de Sénart. Changez rien, et on aura toujours le plaisir de vous recroiser, je l'espère, sur le plateau de Radio Immo.
Avec grand plaisir, merci beaucoup, bonne journée.
On enchaîne.
Le speed dating de l'immobilier, organisé par Arkéa Banque, entreprise et institutionnelle, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.